Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Aignot et vous êtes sur Le Gratin. Le Gratin, vous le savez, c'est un podcast où j'aime aller à la rencontre de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres et variées également, des architectes, des entrepreneurs, des hommes et des femmes d'affaires, des athlètes bien sûr, et dans ce cas précis, un parfumeur. Car oui, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur Le Gratin Jean-Claude Elena, une légende, s'il en est une, du monde du parfum. Née le 7 avril 1947 à Grasse, où j'ai d'ailleurs fait cette interview et vous allez peut-être entendre quelques petits oiseaux chanter de temps en temps, Jean-Claude Elena est donc parfumeur français. Il a été le nez exclusif d'Hermès pendant près de 14 ans et est désormais directeur de création olfactive de la maison de parfum Le Couvent depuis 2019. Alors, Jean-Claude Elena commence sa carrière très jeune et naît vraiment dans le monde du parfum. Son père était parfumeur et travaillait donc à Grasse et va très vite en fait arrêter l'école pour devenir artisan, pour mettre vraiment les mains dedans quand il va le dire et apprendre sur le terrain. Il se rend compte qu'il est doué et va ensuite donc faire des études plus poussées dans le domaine, mais sera toujours vraiment attiré par le fait de faire, par le terrain, et donc va assez rapidement lâcher ses études justement pour pouvoir pousser son expérience sur des terrains qui sont beaucoup plus concrets parfois que ceux de la formation. Il va assez rapidement être repéré pour pouvoir créer le parfum mythique First de Van Cleef & Arpels, puis enchaînera une succession de succès, dont le fameux parfum d'Hermès, Terre d'Hermès, que vous connaissez certainement et dont on a parlé dans l'épisode, ou encore le jardin de Monsieur Lee, qui lui permettra d'ailleurs d'avoir une reconnaissance suprême dans son milieu. Avec Jean-Claude Elena, on a parlé évidemment de création et je pense véritablement que cet épisode est une pépite pour tous ceux qui s'intéressent à la création, à l'arbitrage permanent entre le fait de créer quelque chose de neuf, comment se renouveler et en même temps le fait de vouloir parler à un marché. La notion de mode, la notion d'air du temps sont des notions dont on a beaucoup parlé avec Jean-Claude et sur lesquelles il a mené de nombreuses réflexions. Jean-Claude est quelqu'un qui aime les mots et vous allez le voir, il s'exprime particulièrement bien dans cet épisode, nous parle avec énormément de passion de son métier et j'espère que cela vous donnera envie de découvrir ses nouvelles créations. J'en profite à cet égard pour remercier nos hôtes puisque nous avons enregistré cet épisode donc chez Accor et Parfum et plus particulièrement je remercie Olivier Mort donc qui nous a reçus avec énormément de chaleur et de convivialité. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cet épisode avec Jean-Claude Elena. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Pauline.
Je suis ravie de vous accueillir sur Le Gratin.
Moi de même.
Bah surtout chez vous avec cette vue incroyable. Alors c'est la première fois, je dois vous dire, que j'interview un gratin à l'extérieur.
Quelle bonne idée.
Exactement. Et en plus avec une vue aussi magnifique, c'est une chance. C'est une chance. J'invite d'ailleurs les personnes qui nous écoutent à aussi aller regarder pour une fois la vidéo. Habituellement, on le disait juste avant, je préfère l'audio uniquement. Mais là, vous avez la chance d'avoir une vidéo YouTube avec cette vue. Il ne faut pas passer à côté.
La vue est inoubliable.
Et d'ailleurs, Jean-Claude, j'en profite pour vous demander, du coup, peut-être en première question, qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu vous installer ici?
Je suis originaire d'ici. Je suis né à Grasse. Alors, je suis né à Grasse, mais et ensuite, j'ai fait mes premières démarches dans la parfumerie à Grasse, puisque je suis rentré en parfumerie à l'âge de 16 ans. Comme ouvrier, donc à rouler les fûts, à nettoyer les alambics, et donc. Et d'un seul coup, parce que j'étais vraiment, vraiment mauvais à l'école. Et donc, mon père a dit, le travail. Et donc, le travail, c'était la parfumerie, parce que Grasse, c'est la parfumerie.
Donc, c'était un peu par hasard, finalement, que vous êtes tombé dans le monde de la parfumerie? Parce que j'allais vous demander, c'est quand même
Peut-être à Grasse, c'est commun, mais dans l'absolu, tout le monde ne travaille pas dans ce secteur. Et donc, je voulais savoir comment vous étiez arrivé à tomber dans cette marmite, si je peux dire, de la parfumerie.
Alors, c'est pas par hasard, parce que mon père était parfumeur, mon oncle était dans la parfumerie aussi. Donc, plutôt la famille était dans la parfumerie. Et puis, à Grasse, la majorité des gens travaillent en parfumerie. Donc, ça allait de soi que, allez, ouvrier dans une parfumerie, tu commences par là, et puis on verra bien. C'est même pas tu, on verra bien, c'est... On verra.
On verra. Vous disiez, vous n'étiez pas très bon à l'école.
Non, très mauvais à l'école et l'éducation scolaire ne me convenait pas du tout. Donc, en rentrant en parfumerie, d'un seul coup, je trouvais un monde qui était bienveillant, accueillant, ce que je ne ressentais pas cela à l'école. Et j'avais besoin de faire pour apprendre. Donc, ce besoin de faire pour apprendre, d'être confronté à une réalité, et me permettait d'apprendre.
La meilleure manière d'apprendre, je pense.
C'est une bonne manière d'apprendre, qui ne convient pas à tout le monde, mais en tout cas, elle me convenait à moi. Donc, j'ai appris et distiller, extraire, faire des analyses, le métier. Donc, voir tout ce qui concerne le métier. Donc, j'ai fait tous les laboratoires possibles et imaginables dans l'industrie du parfum. Et puis, il y avait une école de parfumerie qui ouvrait à Genève, qui était Givaudan, grosse société aujourd'hui de la parfumerie, numéro un mondial. On était dans les années 68. Il faut savoir aussi que j'étais déjà marié. À 20 ans, j'étais marié.
Marié à 20 ans.
Oui, à 20 ans, j'étais marié. Et un enfant.
Ah déjà ?
Oui.
À 20 ans.
Oui, à 20 ans. Oui, je fais très vite tout.
Voilà, vous faites tout rapidement.
Oui, rapidement. Et une école de parfumerie ouvre à Genève. C'est l'époque qu'on est dans les années 60-70. C'était une époque où on a besoin énormément de parfumeurs. Il y a plus assez de parfumeurs pour répondre à la demande de marché.
Parce que le marché avait énormément évolué.
Parce que le marché, d'un seul coup, découvre les produits, les shampoings, les détergents, les savons, etc. Et donc, ils ont besoin de parfumer tous ces produits-là. Et on a besoin de parfumeurs pour créer des produits parfumants pour ces produits-là. Donc, l'industrie, et Givaudan fut le premier à dire, il nous faut des parfumeurs pour le futur. Parce que ça se développe énormément. Les sociétés, à l'époque, progressaient de 20 à 25% par an.
Incroyable.
C'est absolument incroyable. Quand on y pense aujourd'hui, c'est on est loin de là. Ouais. Donc, ils investissent et ils ouvrent une école de parfumerie. Voilà, je me présente et je suis pris. Je suis même le premier élève à rentrer à l'école de parfumerie. Le problème de l'école de parfumerie, c'est que la formation se faisait sur 3 ans. Et, ça va pas à l'école.
Retour à l'école qui vous plaît pas.
Retour à l'école qui ne me
plaît
pas.
Mais pourtant, j'imagine que dans une école de parfumerie, on fait des choses quand même. Enfin, je vous imagine assez bien avec des alambics, avec des, enfin, quand même.
Oui, on fait des choses, on apprend à sentir, ouais. Il y a des produits, on apprend à les mélanger, etc. J'avais un professeur que je trouve absolument bête, qui sentait mauvais.
Ah, ça, c'est mauvais quand on travaille au parfumerie.
Voilà. Et, non, ça m'allait pas, cette formation, etc., etc. Et donc, je suis allé voir le chef parfumeur de l'époque. Et je lui dis, mais écoutez, donnez-moi du travail. Et allez, retournez à vos laboratoires, apprenez, et puis vous viendrez plus tard. Alors, je suis gentil, mais embêtant.
Tenace.
Oui, tenace. On m'appelle facilement bulldozer.
Ah.
Mais bulldozer gentil, mais
oui,
bulldozer.
Oui. Un gentil bulldozer.
Ouais, un gentil bulldozer. Et au bout de 9 mois, il me dit, mais écoutez, voilà, je vous donne cet échantillon, vous allez l'imiter. Vous allez imiter ce qu'il y a, c'est un parfum africain pour le marché africain. Imiter, donc. Et je m'installe, et puis je commence à faire la même chose, et au bout de 15 jours, je lui rends un travail. Il me dit, c'est pas mal. Vous pouvez m'en donner un autre. Il m'en donne un autre. Et la même chose, donc... ça allait très vite. Il n'y avait même pas un an qui me dit, non. Vous devenez mon assistant. Donc, voilà, j'ai pas fait mes 3 ans, je suis resté même pas une année comme élève parfumeur.
Vous vouliez être vraiment dans le concret, quoi, dans le réel et faire.
Oui, et faire. Et donc, je sais pas si ce que j'avais fait était bien, mais en tout cas, ça lui a plu et je suis devenu assistant. Donc, j'ai vu comment il travaillait. On s'est bien entendu. Au bout de 3 ans, il m'a dit, écoute, pour parfaire ta formation, il faut que tu ailles aux États-Unis. Donc,
pourquoi
voilà.
Ça?
Parce qu'il y avait le marché français, il y avait le marché américain qui est très très différent du marché
au niveau des
goûts, des odeurs, de la manière de travailler et voilà, il y avait l'anglais aussi, il y avait la langue anglaise. Donc, d'abord, j'étais marié avec une Irlandaise.
Donc, vous parliez anglais ?
Non, je ne parlais pas du tout anglais. Ma femme parlait anglais. Ma femme est d'une famille d'artistes. Le cousin de ma femme est Samuel Beckett.
Ah, c'est quelque chose quand même d'avoir une personne comme ça dans sa famille.
Oui, oui. Et donc, cet univers artistique, évidemment, pour moi, était... Voilà, c'était merveilleux. D'un seul coup, j'étais dans un univers qui me convenait. Je ne savais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Donc, on est parti avec ma femme, deux enfants, aux États-Unis. Je ne parlais pas anglais. Et je me suis retrouvé aux États-Unis, dans un laboratoire. Au bout de 3 mois, je parlais anglais.
Vous étiez où ? Vous étiez dans quelle ville ?
Alors, j'étais à New York.
D'accord.
Il fallait partir dans un petit... dans la banlieue, ça s'appelle Clifton. C'était toujours Givaudan, hein. Et il y avait 30 kilomètres à faire en voiture. Bon. Et voilà, je me trouve dans un laboratoire. Et là, il y a quelque chose qui change énormément de point de vue approche. C'est que, en Suisse, là où j'étais avant, à Genève, vous êtes très coucouné, vous êtes entouré, on vous aide, etc. Et là, en Amérique, c'était, tu te débrouilles tout seul. Il va falloir faire tes preuves tout seul. Et donc, je vais faire mes preuves tout seul. Mais ça me plaît de faire mes preuves tout seul. Le challenge vaut la peine. Donc voilà, je vais rester là une année, rentrer ensuite, au bout d'une année, rentrer à Paris. Et quand je rentre à Paris, je crée le premier parfum connu qui sera First pour Van Cleef & Arpels et qui sera le premier parfum pour joaillier.
Mais vous étiez, tout jeune, je veux dire, à l'époque.
Oui, j'avais 28 ans.
28 ans, mais c'était finalement l'une de vos premières expériences professionnelles en rentrant en France.
Oui.
Comment est-ce que vous avez été amené à créer ce parfum ? C'est par le biais justement de vos expériences que vous avez été mis en relation aussi avec Van Cleef ? Comment ça s'est passé ?
Alors, l'histoire de Van Cleef, c'est que le marché à l'époque ne marchait pas de la même manière qu'aujourd'hui. Le marketing n'existait pas. On est dans une relation de président à président, de président à président. Van Cleef parfum n'existait pas encore.
Ouais, c'était le premier parfum de Van Cleef, non?
C'était le premier parfum.
Bah, d'ailleurs. Ouais.
Et la marque n'existait pas encore. Enfin, la marque existait, mais le parfum n'existait pas encore. Donc, il y avait un jeune homme avec de très très beaux yeux bleus. Je me souviens, c'était Claude Sauger, qui est toujours là, qui est toujours vivant, qui est toujours présent. Et Claude Sauger, vient chez Givaudan où j'étais. Et puis il me dit, écoutez, voilà, j'ai vendu l'idée à Van Cleef d'un parfum. J'aimerais un parfum bijou. Donc, il me montre une ébauche de flacon, il me montre une ébauche par dessin, il me dit, bah, oui, c'est un pendentif, et qu'on a décliné en flacon de parfum, et voilà, je veux un parfum bijou. C'est tout.
Quel brief.
Moi, j'adore ce genre de brief.
Ah, c'est génial. Mais justement, alors là, c'est parfait parce que, une des raisons pour lesquelles je voulais autant vous parler, Jean-Claude, c'est comprendre le processus créatif. Pour vous, spécifiquement, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup des différents, de la création d'un parfum. Donc, si on prend cet exemple de Van Cleef, peut-être, alors je sais que ça remonte un peu, mais quand vous avez un brief comme ça, faites-moi, Jean-Claude, un parfum bijou, mais qu'est-ce que vous faites concrètement? À quoi ça ressemble? Est-ce que il y a d'ailleurs une première phase qui est une phase de réflexion? Est-ce que vous lancez tout de suite dans des tests? Enfin, j'aimerais essayer de comprendre, parce que c'est tellement loin de notre quotidien, l'odorat, que je me projette assez mal. Et donc, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, finalement, dans votre tête, quand on vous fait un brief comme ça.
Alors, ce qui se passe dans la tête, à 28 ans, je suis très ouvert au marché. C'est-à-dire, je regarde tout ce qui se passe, tout ce que les autres font. Je suis une éponge. C'est-à-dire, je prends de tous les côtés,
vraiment tous les parfums.
Je sens des vrais parfums et je les analyse et j'essaie de les comprendre, de les lire. Et alors, c'est l'éponge. Voilà, je m'alimente, je me nourris du marché. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Mais à l'époque, je le faisais. Nourrir du marché. Van Cleef, bijouterie, le luxe. Qu'est-ce que c'est que le luxe?
Vaste question.
Vaste question. J'ai une réponse pour ça, mais c'est une réponse qui a été beaucoup plus tardive. C'est créer des choses que les gens n'ont pas.
C'est une belle réponse.
Et parce que sinon, ça n'intéresse personne. Et donc, là, je vais prendre des parfums qui sont à l'époque, qui sont à la... Je vais faire mon propre marketing, c'est-à-dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui plaît. Alors, l'époque, c'est... Il y a toujours le 5 de Chanel, il y a le Fiji de Guy Laroche, Il y a d'autres parfums qui sont là. J'avais Arpège, je me souviens plus. Il y en a d'autres, etc., etc.
Donc, il y a une notion, oui, je suis désolée de vous interrompre, d'air du temps quand même, même.
Oui,
dans,
oui, il y a l'air du temps. Oui, bien sûr qu'il y a l'air du temps. Et puis une chose que j'ai appris aussi à faire, c'est que je sais faire un 5 de Chanel avec 5 produits. Je sais faire un Fiji avec 3. C'est-à-dire que je sais faire des silhouettes avec très peu de matériaux.
Ce qui est rare.
Parce que la plupart du temps, on copie la totalité. Mais non, il faut pas faire ça. Il faut juste s'inspirer des quelques traits qui fait que quand vous sentez, mais oui, c'est ça. Et non pas la photographie. La photographie est une erreur. C'est, non, quelques traits juste pour signifier. C'est, on est au niveau du signifié, là. C'est, oui, hop, ça me suffit à comprendre. Donc, j'associe les éléments que je récupère un peu partout, et puis, je présente à Claude Sauger, et puis il me dit, ah oui, ça me plaît bien. Bon, écoute, je vais le faire porter par ma femme. Bon, il fait porter par sa femme. Il m'appelle en me disant, écoute, j'ai senti sur ma femme, c'est pas assez puissant. Le matin, ça sentait plus rien. Ah, ok. Donc, voilà, travailler sur la tenue du parfum, sur la puissance du parfum. Et puis, voilà, il y a des échanges là-dessus, sur la tenue, sur la puissance du parfum. Pas sur le thème est accepté, mais voilà. Et puis, au bout d'un moment, il manque quand même une accroche. Il me faut quelque chose de différent qui me distingue des autres. Trouve-moi une accroche. Hein, là, ça commence à devenir beaucoup plus difficile, l'accroche. Comment je peux séduire avec quelques matériaux, quelques mots, le mot qui fait que je sens, c'est la même chose qu'en littérature, c'est les premières lignes qu'il faut que vous allez lire tout le livre. Mais oui, c'est ça le problème. Et l'idée va venir alors je ne sais pas comment ça vient l'idée, mais en tout cas je la prends. L'idée c'est un accord qui sera basé sur Narcisse, hein, luxe, Narcisse, cassis, mandarine. Alors cassis, parce que j'adore l'odeur du cassis, c'est quelque chose de gai. La mandarine encore plus gai. Et le narcisse, il y a une verteur qui me plaisait. Donc j'accroche ces éléments sur le parfum déjà existant. Il sent, ouais, ça me plaît. Et la même chose, à nouveau, c'est, ma femme va le porter et puis je te dis.
Il fallait la brosser dans le sens du poil, c'est pas facile.
Alors il m'appelle, il me dit, écoute, j'adore le parfum, mais il est toujours pas assez puissant.
Oh.
Alors, écoute, j'ai deux produits en finale, le tien et celle d'un concurrent. Il faut que tu me fasses encore un essai. Et si l'essai que tu me fais me convient, et que demain matin je sens ma femme, je prends ton parfum. Sinon, tu l'as perdu. C'était vraiment la compétition. Donc j'ai fait le nécessaire, il l'a porté. Le matin, il m'a téléphoné pour me dire, ça va.
Tu l'as.
J'ai pris. C'était rigolo parce qu'il l'a pris et quelques semaines après, il me téléphone en disant, est-ce que tu es sûr de toi? Et là, on sent bien le... Il me dit, écoutez, je vais investir des sommes folles sur ce parfum-là. Est-ce que tu es sûr de toi? Je lui dis, écoutez, la seule chose que je peux t'affirmer, c'est que je fais ce que je pense être le mieux. J'y crois. Je peux pas te dire plus, donc j'y crois. OK, on y va. Mais voilà, c'est devenu un succès. Et oui, c'était un autre monde. Mais j'aimais travailler comme ça. J'ai beaucoup travaillé comme ça parce que, en principe, par la suite, quand je recevais des briefs, avant que je devienne parfumeur indépendant, quand je recevais des briefs, la plupart du temps, les briefs, je les mettais à la poubelle, je faisais ce que j'avais envie de faire et je proposais ce que j'avais fait. C'est tout. Et puis, vous aimez pas, ça fait rien.
Est-ce qu'il était important quand même qu'il y ait un lien entre la marque, le produit et finalement le parfum, ou finalement c'était vraiment plus une inspiration, votre goût du moment,
peut-être l'état du moment. Bien sûr, c'est mon goût.
Donc il n'y avait même pas forcément de on va dire de lien très très fort. Non, je veux dire, c'était comptait.
Non, pas du tout. Alors évidemment, je veux dire, si je travaille dans le luxe, si je travaille pour Van Cleef & Arpels, il y a des choses que je ne veux pas faire, je ne veux pas donner, parce que il y a une certaine, quand même, j'ai une certaine vision de la chose, mais Pour moi, d'abord, la création, elle est narcissique. Il faut qu'elle me plaise avant de la céder, avant de la donner. Et après, on rentre dans la notion du don, c'est-à-dire je te l'offre. Ça ne m'appartient plus, je te l'offre. Et c'est une dimension ça très très importante dans la création, c'est-à-dire la notion du don. Et il faut que ça soit généreux. Il n'y a pas de bonne création si elle n'est pas généreuse. C'est quelque chose auquel je crois énormément. C'est le don, tu l'offres, tu le donnes. Et une fois que tu l'as donné, on peut commencer la prochaine création. Parce qu'il faut donner pour pouvoir recommencer. Sinon, on ne peut pas recommencer. Donc, ce processus est un processus mental, je trouve, très, très important. Et
pour passer à autre chose, c'est
pour
ça
passer
et
pour à autre chose.
Capable
oui,
de finalement
oui,
recréer
oui,
quelque chose
oui,
de nouveau.
Oui, 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 oui.
C'est intéressant parce
il
que
faut
j'avais...
Il faut se défaire de ce que l'on a fait, c'est-à-dire l'offrir à un autre. Vous voyez, c'est fini. C'est l'enfant qu'on a mis au monde, maintenant tu vis pour toi. Je veux dire, je ne suis là que pour t'accompagner ou pour t'aider, mais tu m'appartiens plus, c'est fini, c'est toi qui fais ton chemin. Ah, c'est la même chose à peu près, voilà, il vous appartient.
Vous disiez, quand on a parlé là du brief créatif oui. Van Cleef, qu'à l'époque, vous vous renseignez beaucoup sur la concurrence, sur tout ce qui se faisait, et qui est certainement un bon conseil quand on débute dans sa carrière de déjà connaître le marché, et que maintenant, vous ne le faites plus. Alors, dites-moi comment vous faites maintenant. Maintenant, c'est parce que vous avez tellement accumulé d'expériences ou vous voulez même plus être dans l'air du temps et faire quelque chose de purement créatif.
Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, moi, je distingue la mode, la tendance et l'air du temps. La mode, ça se démode, c'est pas intéressant. Parce que, avec le parfum, je suis dans un produit qui va au-delà de la mode. C'est-à-dire qui dépasse la mode. Le 5 de Chanel, c'est toujours en vente, ça a été créé en 21, pardon. Et, il est toujours là. Le Chalimard, c'est 25, il est toujours là, etc. Donc, le First de Van Cleef, il a été, créé en 76.
Il est toujours là.
Il est toujours là. et tant mieux. Donc ça passe les modes. Alors, la seule difficulté pour les sociétés qui ont des parfums, c'est d'entretenir le mythe, d'entretenir l'image. Mais s'ils entretiennent l'image correctement, le mythe de ce parfum-là, voilà, il passe le temps. Parce qu'en fait, la seule difficulté, c'est d'adapter le discours par rapport à l'époque.
Oui, mais c'est plus au niveau du discours qu'au niveau de la création.
Mais c'est au niveau du discours, pas de la création. La création, elle, si elle est vraiment bien, elle passe le temps. Donc, ensuite vient l'air du temps. L'air du temps, c'est ça. Alors j'ai pas de réponse là-dessus sur l'air du temps. La notion de l'air du temps, c'est en tout cas une question qui me taraude tout le temps, hein, qui est profonde. C'est est-ce que ce que je fais correspond encore à mon époque, est encore lisible, est-ce que c'est compréhensible. Il y a toujours chez moi la notion de oui, est-ce que c'est lisible, compréhensible? Est-ce que les gens qui vont sentir le parfum que j'ai fait, parce que moi, ce que j'essaie de faire dans les parfums, c'est que le parfum soit lisible. C'est-à-dire que je le sens et, ah oui, je comprends ce que tu veux me dire.
C'est une émotion qu'on doit comprendre?
C'est une émotion qu'on doit comprendre. On la comprend comme on la veut, on la lit comme on le veut, mais c'est la même chose que le roman. C'est-à-dire, je te passe un roman, tu vas faire ta propre lecture, mais il faut qu'il se passe quelque chose, là. Et donc, c'est, est-ce que ma manière d'écrire, ma façon d'écrire, est dans le temps? Et dans l'époque, et toujours dans l'époque. Alors, la difficulté de savoir, la grande difficulté, c'est de sentir, c'est que non, oui, je ne correspond plus à du tout à l'époque. Bon, dans ce cas-là, on pose le crayon, puis c'est fini. Oui, voilà, c'est ça la question. Et je n'ai pas de réponse.
Je pense qu'on en a pour vous. Je pense qu'on en a pour vous. Mais je vois ce que vous voulez dire entre mode et air du temps, finalement, cette différence. Et donc, vous disiez aujourd'hui, justement, vous êtes un petit peu moins regardant sur le marché, sur l'air
du
temps.
Pas le marché
voilà.
Du tout.
Vous faites
non.
Finalement quelque chose qui est purement créatif au sens où ça vous plaît.
Oui, il faut que j'écris et j'offre. Oui, j'écris quelque chose en odeur et puis après, il se passe quelque chose à l'extérieur et. Pour l'instant, ça marche. Et toujours cette notion, il y a toujours une remise en question de ce que je fais et en même temps de générosité. Il faut que ça soit généreux. Et à chaque fois, c'est un mot auquel je crois énormément dans la création. Il faut que ça soit généreux parce que celui qui va le sentir ou celle qui va le sentir va sentir qu'il s'est passé quelque chose. Si c'est, si c'est trop enfermé dans le marché, dans ce qui plaît, c'est ouais, c'est agréable.
Mais ça sera la mode, mais ça va pas durer.
Mais l'agréable me suffit pas. C'est pas suffisant, pas du tout.
Complètement, je comprends. Vous vous rappelez d'une des premières fois où vous avez senti un de vos parfums sur quelqu'un que vous connaissiez pas, comme ça, peut-être dans la rue, dans un parc.
Oui. Enfin, la première fois, non, mais ça m'est arrivé de sentir dans la rue quelqu'un
que
qui portait.
Vous
oui.
Et ça doit être étonnant de voir sa création sur quelqu'un et de l'avoir associée finalement.
Et alors, moi, je trouve ça très agréable, quelle que soit la personne, qu'elle soit jolie, moche, etc. Non, c'est très agréable. Parce qu'évidemment, il y a la
vous
personne
qui
va le porter.
Vous avez pu être déçu parfois.
Non, mais je vois des personnes. Bon, c'est voilà. Alors surtout, je vais pas la déranger. C'est moi. Non, pas du tout. Il y a le plaisir de sentir. Voilà, juste le plaisir de sentir. Et ça, c'est une belle récompense.
On a parlé de Van Cleef, je voulais parler d'Hermès aussi, parce que vous avez quand même travaillé pour la maison pendant un certain temps, avec notamment le fameux terre d'Hermès. C'est drôle, je suis venue en avion vous voir, il y avait des terres d'Hermès partout, j'ai pensé à vous, je me suis dit Jean-Claude est partout.
C'est difficile à échapper.
Alors que, en quelle année, terre d'Hermès
2006.
D'accord, donc c'est quand même plus récent, mais malgré tout.
Ça fait 15 ans.
Voilà, ça dure.
Oui.
Et cette notion de durabilité quand même qui est assez folle, je trouve, dans ce que vous faites, qui est très rare, je pense. Et donc, est-ce que vous pourriez me parler là peut-être de alors ce parfum ou un autre, mais quand on crée un produit pour une marque comme Hermès ou comme Van Cleef d'ailleurs, qui sont des marques de luxe, donc dans le temps, qui s'inscrivent dans le temps, est-ce que justement cette notion de faire quelque chose de classique, quelque chose qui va ne jamais se démoder, est importante et comment vous réussissez à l'approcher pour vous dire, alors je ne sais pas s'il y a une réponse simple, mais pour vous dire... Je pense que ce produit-là, je pense que cette odeur, je ne sais pas si on dit une odeur, cette fragrance, ne va pas se démoder. C'est quand même fou.
Alors, il y a cette quête de... De toute manière, si je crée quelque chose, je veux qu'elle perdure. Je veux dire qu'elle... Alors, la première chose à faire, c'est ne pas s'inscrire dans la mode ni dans la tendance. Oublions mode et tendance. Parce que, non, la tendance est déjà passée.
Il ne faut pas y céder, en fait.
Il ne faut pas y aller. Pas de ce côté-là, parce que... mais c'est déjà fini, ça. Donc, oublions. Première chose. Deuxième chose, c'est... Autre chose que je crois qui fait que... peut-être mes parfums tiennent mieux dans le temps, c'est leur simplicité. C'est-à-dire, ils sont... Il y a une espèce d'évidence dans l'odeur qui fait que... Je reconnais tout de suite l'odeur. Je la lis, je la comprends. Et en même temps, si je la lis, je la comprends, il faut que ça soit suffisamment complexe dans sa simplicité.
Pas évident.
Pas évident du tout. Mais pourtant, c'est important. C'est-à-dire parce que si c'est simpliste, la lecture fait qu'au bout d'un certain temps, vous allez vous enlacer. En disant, il me raconte toujours la même chose, là. Non, mais j'ai fait le tour du discours. Si j'ai fait le tour du discours, allez, oublions. Hop, mets de côté. Par contre, si vous arrivez dans la simplicité à avoir quelque chose de complexe, c'est-à-dire, c'est, mais comment il a fait ça?
C'est une accroche.
C'est une accroche, oui. Comment il a fait ça? Mais comment il est arrivé à ça? Eh bien là, vous faites comme dans la cuisine, quand vous arrivez au niveau du 3 étoiles, c'est comment il a fait et ce qui fait que vous retournez dans le 3 étoiles. Eh bien là, c'est la même chose. Si vous arrivez à faire ça dans le parfum, hop, on revient dans le parfum. Ce qui fait que, à chaque fois que vous mettez le parfum sur vous, c'est, oui, je le reconnais bien, mais aujourd'hui, il est un petit peu différent. Mais pas beaucoup de différence. C'est à la marge, la différence. Mais à chaque fois, c'est la surprise. Et ça, je crois que ça fait partie des choses merveilleuses qui fait que ça peut tenir. Mais ça s'aborde par la, je crois énormément à la simplicité, c'est-à-dire, dans le thème. Parce que dès qu'on complexifie, il y a beaucoup trop de choses, il y a beaucoup trop de lectures, et à la fin, ça lasse aussi. C'est-à-dire, mais je le comprends pas. Ça va pas du tout.
Vous disiez, là, pour Van Cleef, vous citiez 3 éléments, le narcisse, le cassis et la mandarine.
Oui.
C'est quelque chose d'important pour vous, justement, d'essayer de simplifier au niveau vraiment chimique, si je puis dire, d'avoir le moins d'éléments possible dans vos parfums?
Alors, pour First, j'avais à peu près 160 composants.
Oui, donc il y a quand même, c'est simple dans les...
Non, c'était pas simple du tout, j'étais complexe à l'époque. Et puis, là où il y a la transition, là où on sent la transition.
150 composants, mais c'est fou. Hein? 150 composants, c'est dingue.
Non, non, là où on sent vraiment la transition, c'est quand je suis venu, quand j'ai créé pour Bulgarie le thé de Bulgarie, le thé vert de Bulgarie. Là, j'étais descendu à 19 composants. Alors, de 160 à 19, ça se fait pas comme ça.
Il y a quelques années d'expérience.
Il y a beaucoup d'années d'expérience et beaucoup de travail. Il y a beaucoup de, une recherche intellectuelle derrière ça. C'est-à-dire de, quand même, il y a un besoin. C'est-à-dire que quand je commençais à travailler, du temps du first, je travaillais avec 1500 produits. Aujourd'hui, je ne travaille avec 10 fois moins. Je travaille avec 150 produits. Et donc, c'est la maîtrise. C'est-à-dire recherche de maîtrise de ce que je fais. Recherche de maîtrise, alors, qualité de la matière. Et maîtrise dans la manière dont je vais utiliser mes composants. Et ça s'épuise jamais. Même quand vous diminuez le nombre de composants.
C'est ça qui est fou.
Il y en a des possibilités. Je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup.
je vous crois. Je vous crois assurément. Je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez me décrire à quoi ressemble une journée de travail de Jean-Claude et Léna? Parce que, on est dans ce lieu magnifique, j'ai des odeurs là qui arrivent, c'est absolument fou. Et je me dis, mais finalement, à quoi ressemble votre métier maintenant? C'est-à-dire que concrètement, vous continuez à sentir... j'ai vraiment une vision qui est complètement, je pense, fausse, mais je vous imagine en train de tout sentir.
Ah non, alors,
je visualise pas tellement.
Alors, le métier aujourd'hui, c'est plutôt un métier... je travaille plus sur brief, mais c'est plutôt un métier de rencontre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui me demande en disant « Est-ce que vous pourriez travailler pour moi un parfum ?» Il faut qu'il se passe quelque chose, là. Je veux bien travailler pour vous, mais il faut que je vous rencontre, il faut qu'on... Souvent, c'est « Non, j'ai pas envie. » Non, je vais pas travailler pour vous parce que vous m'avez déjà mis un cadre dès le départ. Et alors le cadre, ça, j'en veux pas du tout. Pouvez-vous me faire des parfums zodiacaux? Ah ben là, on n'a pas du tout.
12 parfums avec 2000 éléments chacun. Voilà.
Est-ce que vous pouvez me faire des parfums sur le thème de l'amour?
D'accord.
Bon, écoutez, on va pas se comprendre. Non, là, vous êtes à côté de la plaque.
Oui, c'est pas vous qu'il faut aller chercher pour faire ça.
Non, il y a des sociétés qui font ça très bien, mais pas moi. Mais par contre, ça peut être une société qui est dans le luxe et puis et le directeur artistique de la société. Je discute avec lui, et je dis oui, on peut se comprendre. Il va y avoir un échange. Il va se passer quelque chose. Et dans ce cas-là, oui. Alors, je vous parle de rencontre, mais il y a plusieurs manières de faire, c'est-à-dire. Soit c'est moi qui fais une proposition sur le thème du voyage. Je dis, écoute, je travaille sur les voyages. Et puis, je construis une colonne sur l'esprit du voyage. Et puis, j'ai une proposition. Mais, voilà, j'ai envie de travailler sur une matière, sur une idée que j'ai, une lavande qui va être très froide, ou une lavande noire, ou... tout est possible. J'aime bien raconter l'histoire que j'avais eue avec Olivier Rollinger. Mais ça, c'est du temps d'Hermès, mais c'est une rencontre aussi. Je rencontre Olivier Rollinger, chef 3 fois étoilé, et puis il m'invite, je fais court là, il m'invite à Saint-Malo, à Cancale plutôt, pour voir ses épices, parce qu'il s'est mis dans les épices. Je sens avec lui ses épices, on échange là-dessus, etc. Puis de cet échange, je lui dis, mais écoute, tes épices, le bord de l'océan, mais je pourrais créer un parfum là-dessus sur ce thème des épices et de l'océan. Alors ça le fait rire. Je rentre ici et je crée un accord que je lui envoie. Alors il me dit ah oui j'aime bien. On se part au téléphone. Il me dit oui j'aime bien mais tu sais il manque l'odeur de la brume. Ah il manque l'odeur de la brume. Parle-moi de l'odeur de la brume. Alors il commence à me parler de l'odeur de la brume. Et il me dit « Ah oui, il y a une chose dont je me souviens, c'est l'odeur de la brume. Et il y a un whisky qui sent l'odeur de la brume. Il y a un whisky qui s'appelle le Bruichladdich qui sent l'odeur de la brume. Pour moi, ça sent vraiment ça, le Bruichladdich, l'odeur de la brume. Écoute, je connais pas, épelle-moi le nom. » Alors, il m'épelle le nom. Et puis, je vais sur Internet, Bruichladdich, je le trouve, etc. Je fais rentrer au labo, enfin, à ma maison, je vais rentrer... un gros flacon de Bruichladdich, et je me parfume largement au Bruichladdich. Évidemment, en me parfumant au Bruichladdich sur les bras, je vois très bien comment je peux refaire l'odeur. Donc, trois produits ensemble, ça recrée l'odeur. Je lui envoie un échantillon et puis il me téléphone, il me dit « Ah ouais, c'est ça. Comment t'as fait ?» Il dit « Ah oui, mais à chacun ses recettes.
Ouais. » Chacun ses recettes.
Chacun ses recettes. Et oui, ça va rentrer dans la composition parce que j'avais mis de la mer, j'avais mis des épices. Et voilà. Mais c'est ce dialogue-là, je vous le fais court, mais ça a duré quelques mois comme ça. Et c'est ce dialogue-là qui fait que petites les choses se construisent. Et là, j'étais dans un rapport. Oui, c'était... nos femmes se sont vues et puis on s'entend bien, on est devenus amis. Et puis nos femmes disaient, elles se disaient ensemble, on dirait deux gosses dans un bac à sable. Et j'aimais bien cette idée-là. Oui, on était deux gosses dans un bac à sable, on se comprenait, on échangeait et on partageait les mêmes valeurs, les mêmes manières de voir les choses, de générosité aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de la générosité. Puis il y avait quelque chose qui me disait, que je trouvais très très important, c'est, tu sais, dans mon restaurant, dans mon hôtel, je m'entoure uniquement de mots gentils, de gens gentils. Et s'il n'est pas gentil, je le vire. Je ne veux que des gentils. Parce que sinon, ça marche pas du tout. Mais j'adorais ça, avoir des gens gentils pour travailler. Ce qui fait que quand vous allez chez lui, ça marche à tous les coups. Il y a une ambiance, il y a une manière de vous recevoir, il y a des plats, hein, oui, tout est parfait. Et donc voilà. Et parfois c'est autrement, c'est-à-dire que c'est moi qui propose. Et une des dernières choses que j'ai fait dernièrement pour un client, c'était le problème du citron. Alors le citron, depuis que les Américains nous ont envahis avec le liquide vaisselle au citron, parce que c'est eux les fautifs. Dans les années 50.
On n'aime plus le citron.
Alors, ils ont mis du citron dans les liquides vaisselle pour la bonne raison qu'ils avaient vu que les Américaines se parfument, se lavaient à la main, évidemment, et pour se soigner les mains, elles se mettaient du citron coupé qui blanchissait les mains. Et ils ont dit, on va mettre du citron dans les liquides vaisselle. Et ensuite, la France, qui était avec d'autres parfums, était mis au citron aussi. Résultat, le citron, c'est l'odeur des liquides vaisselle. Mais le problème qui vient ensuite, c'est que moi, je trouve que le citron est super bidé, c'est très vif, c'est très nerveux, ça. Waouh! Oui, mais des gens, quand ils sentent du citron, ils disent, c'est du liquide vaisselle. Alors, comment je peux reprendre le citron et aller ailleurs, qui fait que ça sera toujours du citron, mais pas du liquide vaisselle. Donc, là, il y a un challenge, c'est-à-dire une remise, prendre de la distance par rapport à l'odeur existante, par rapport au code olfactif qui est existant, qui, voilà. Et ça me plaît, oui. Mais là, c'est de changer le code.
On voit que vous êtes très libre, au sens où, finalement, c'est vous qui choisissez vos projets, vous aimez les challenges. Une question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il a toujours été facile pour vous, ou est-ce que c'est facile, d'ailleurs, de dire non? Parce que le prix de cette liberté, c'est aussi, justement, de dire non à certains qui vous démarchent, les fameux 12 zodiacs dont on veut pas. Alors, eux, c'est peut-être pas trop difficile, mais il y en a, j'imagine, où c'est pas si simple. Vous avez ici une liberté incroyable, vous êtes dans un espace merveilleux, un petit peu à l'écart, quand même. Et donc, c'est un choix.
Volontairement à l'écart.
Voilà, c'est un choix, en fait, j'ai pas envie de dire cet isolement, parce que vous êtes entouré, mais je veux dire, quand même, d'être resté comme ça, au cœur de New York ou de Paris. Et donc, finalement, à un moment donné, d'avoir privilégié votre liberté, d'avoir dit non, certainement, à plein de personnes qui vous demandaient de travailler pour eux ailleurs. Est-ce que vous pourriez m'en parler ?
Le nom n'était pas facile. Quand j'ai commencé, le nom n'était pas facile. Je disais oui, oui, oui. Et puis, à force de dire oui, à force de faire des parfums qui ont marché, j'ai dit oui, mais si ça marche, peut-être...
Le droit de dire non.
J'ai plus le droit de dire non. Non, j'ai commencé à dire non. Pas forcément de dire non, mais en tout cas de pas suivre le brief qui était demandé, pas être à l'écoute de la demande, faire des propositions et... voilà, moi je le vois comme ça. Et oui, mais quand je faisais ça, la plupart du temps, je gagnais. Alors je me souviens, il y avait une... je vais vous raconter une petite histoire comme ça, parce que j'en ai pas mal, mais il y en a une qui me plaît énormément. C'était, sans citer la société, on me demande de faire un musc. Je vais répondre par un patchouli.
Oui, donc c'est pas un nom franc, c'est une déviation.
Oui, une déviation. Je réponds pas là-dessus. Et la société va le prendre et ça va donner un succès sur le marché.
Ils vont le prendre, hein, quand même.
Et ils vont le prendre. Et ça va dire, venez, Et alors, les confrères à côté me disent, mais t'as jamais répondu au brief? J'ai dit, ouais. Ben, c'est comme ça. Et je dis, les gens, ils connaissent rien à l'odeur du musc. Donc, je faisais ce que j'avais envie.
Oui. Ah, c'est ça, c'est qu'ils n'avaient pas compris. Je pensais que vous aviez réussi à les emmener,
non,
à les convaincre, même pas.
Non, même pas.
D'accord.
Même
c'est
pas.
C'est drôle. Et le fait de revenir ici et de travailler dans des conditions comme celle-ci, c'était important pour vous en termes de créativité d'être dans un endroit comme ça qui...
Oui, alors il y a plusieurs raisons à ça. C'est-à-dire, moi, je voulais être loin. D'abord, j'ai commencé avec Hermès en me dégageant du Faubourg Saint-Honoré en venant ici, parce que je voulais être loin des centres de décision, surtout pour éviter d'avoir des gens qui arrivent dans votre bureau et qui vous disent « Alors, t'en es où là ?» Non, le « t'en es où là ?» Je la réponds « Mais je ne sais pas où j'en suis. » Parce que c'est ça la plupart du temps. Je ne sais pas où j'en suis. Je travaille, je suis en cours de création, c'est entre moi et moi, entre le parfum et moi, et puis j'avance à petits pas, et à un moment donné, je sais que j'ai retrouvé, mais...
Mais c'est pas du tout aussi linéaire, j'imagine.
Mais c'est pas linéaire du
projet,
tout. Mais non, c'est pas linéaire, c'est pas de la mathématique. Non, c'est pas linéaire du tout. Et donc je suis en train de construire un chemin. Mais non, je peux pas vous répondre, j'en suis. Puis, alors je veux surtout pas ce regard qui fait... T'en es où? Ben non, j'en suis nulle part. Par contre, je vais y arriver, ça je suis sûr que je vais y arriver, et je vais faire tout pour y arriver et pour construire le chemin. Donc c'était loin, loin pour éviter ce genre de situation, et je travaille beaucoup plus. C'est-à-dire quand je suis seul, je compte pas mes heures. C'est-à-dire que si je suis en train de travailler et que ça marche bien, 8h, 9h, 10h, oui, on y va. Et c'est pas à 18h que j'arrête, non, c'est pas ça du tout, c'est je continue jusqu'au bout. Mais d'autre part, c'est aussi si à 4h de l'après-midi, j'ai plus d'idées, etc., j'arrête. Donc, il y a une gestion du temps qui est totalement différente et qui fait que... oui, voilà, c'est ça. Donc, il y a autre chose aussi, c'est que l'éloignement permet la découverte. C'est-à-dire que les gens qui viennent de loin sentir... Quand ils arrivent, ils ont fait un chemin. Et là, je peux les cueillir.
Bah, surtout que le chemin pour venir jusqu'à vous est quand même complexe.
Il est
sinueux.
Complexe, absolument. Il est sinueux, il est complexe, mais enfin, il est beau.
Très beau.
L'arrivée, c'est beau. Et donc, je peux cueillir là les gens en leur disant, écoutez, voilà ce que je vous ai fait. Et il se passe quelque chose là. Mm. Je ne rentre pas dans un bureau. Je rentre dans un univers. Je rentre dans un monde, ailleurs.
Vous savez, ce que je trouve fou, c'est il y a ce terme en anglais qui est « living on your own terms
yeah. ».
Et ici, donc vivre avec ses propres termes, je ne sais pas comment on dirait en français exactement, c'est une expression qui est assez forte, je trouve. C'est vraiment de décider finalement un peu de son propre cadre, quoi, tout simplement.
Oui, oui, oui. Oui.
Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous avez créé.
Oui, c'est ça, mais c'est ça l'idée, voilà. Et alors, après, on ne prend pas, mais ça, ce n'est pas grave du tout.
Et qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs qui sont eux aussi dans des métiers créatifs, pas forcément du tout dans le monde du parfum, et qui travaillent avec des entreprises, avec les contraintes des entreprises? Comment trouver cet équilibre entre ce besoin de s'oxygéner, de respirer, de trouver de l'inspiration, quoi, tout simplement, de laisser libre cours à la création avec le temps long aussi que ça comporte, et en même temps les exigences du marché. Parce que très souvent, moi, j'ai des personnes qui me contactent et qui me disent « Ah, ben, je suis dans tel domaine créatif ». Et j'ai du mal, en fait, à faire passer mes messages, à faire voir ce que je veux apporter, parce qu'il y a un brief, parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a un budget. Comment est-ce qu'on essaye de contourner cette quadrature du cercle, qui est qu'il faut de la création pour faire quelque chose de nouveau et qui dure, mais en même temps, bah, la personne en face, de bonne volonté certainement, n'a pas la même vision, souvent, sur le produit.
D'abord, il faut casser le cadre qui est le brief. Je veux dire,
Il faut oser. D'accord.
Oublier. La deuxième chose, c'est que il ne faut pas répondre. Il faut donner. C'est pas la même chose. Répondre, c'est-à-dire, je réponds par rapport à un cadre qui m'a été donné. Donc, je réponds, je remplis les cases. Oubliez les cases. Et soyez vous-même.
Donc, vous n'êtes pas bon élève.
Pas du tout. Gentil, mais pas bon élève. Donc, c'est-à-dire que je remplis surtout pas les cases. Parce que les cases que vous m'avez données, ce sont des cases que tout le monde a, que tout le monde donne. Donc, elles sont sans intérêt, puisque tout le monde les donne. Donc, oubliez les cases. Sortez de ces cases-là. Et soyez vous-même, c'est-à-dire, mais au frais de vous-même. C'est-à-dire qu'il y a... Ah non, et quand le parfum qui est dans mon flacon, c'est moi qui suis dans le flacon. C'est pas la demande, c'est moi qui suis dans le flacon. C'est quand même plus fort, je veux dire, c'est quand même plus fort dans le sens de je m'expose. Et si vous m'aimez pas, si vous appréciez pas ce que j'ai fait, c'est moi qui en prends plein la gueule. Et c'est pas parce que j'ai mal répondu, non, c'est OK, vous avez le droit de ne pas vous avez le droit, absolument le droit de ne pas aimer et de refuser, mais je me suis mis dans le flacon, voilà. Et donc c'est dans ce que je crée, je vais chercher en moi ce que j'ai envie de dire. Et si vous avez vraiment quelque chose à dire, c'est le moment d'en profiter. Alors, il y a cet aspect-là, et ensuite le récit. Il y a un besoin de récit. Toute création a besoin d'un récit.
Donc, il y a quand même besoin d'un récit.
Eh oui, il y a besoin d'un récit.
Il faut pouvoir parler de son œuvre.
Eh oui, il faut parler de son œuvre. Parce que si vous n'avez pas de récit, ça marche pas du tout. Il n'y a pas à justifier le récit, il faut avoir un récit. Mais oui, j'ai fait ça. Je suis parti sur quelle idée?
Vous pourriez me parler d'un récit, justement, que vous avez eu pour qu'on comprenne? Parce que, une fois de plus, j'insiste dessus parce que j'ai vraiment beaucoup de personnes qui me parlent de ça, qui sont des créatifs et qui ont, je pense, quelque chose en eux, qu'ils expriment, mais qui n'arrivent pas à en parler, typiquement.
Alors, je vais vous donner un
exemple.
Vous parlez tout à l'heure de Terre d'Hermès. Alors, je vais prendre ce récit-là. Au départ, on veut un masculin. Très bien, vous voulez un masculin. Le nom, j'ai déjà un nom. La plupart du temps, chez Hermès, c'est moi qui ai donné le nom. Mais là, c'était un nom qui m'est imposé. Donc, le mot « terre ». Une partie de la société aime le mot « terre », d'autres n'aiment pas du tout le mot « terre » parce qu'ils voient « terre », c'est sale, c'est de la boue, enfin bref. Mais c'est pas grave, moi j'aime le mot « terre », ça signifie quelque chose. Donc, c'est nous un masculin. Il faut que ça soit un grand masculin. J'adorais le mot « grand ». En fait, « grand », ça voulait dire... Il faut que ça marche.
Mais c'est plus luxe.
Voilà. OK. Alors, je suis parti sur Ovide. La métamorphose d'Ovide. Ça va. Je reviens. C'est bon. Je suis parti sur... J'adore le récit des métamorphoses d'Ovide. C'est vraiment fort. Et alors là, donc Gaïa, la Terre, la mère de la Terre. Et alors, j'invente un accord qui est le lait de la Terre. Donc une odeur de lait, lactée comme ça, avec l'odeur de la Terre. Et je présente. Alors aujourd'hui, quand je présente quelque chose, ma ligne, c'est il y a 7-8 produits, pas plus. Hein. C'est le thème. Voilà le thème. Après, je vais mettre l'ornementation. Je vais le rendre plus facile. Mais voilà le thème. Ah c'est bien. Donc, je travaille encore dessus. Au bout d'un mois, j'ai dit, non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est moi qui me dis, non, ça va pas du tout. De l'autre côté, ils sont d'accord. Mais moi, je trouve que ça va pas du tout. J'ai dit, mais non, là, avec ce que j'ai fait, oui, c'est intéressant, c'est original, mais ça va plaire à une personne. Non, mais je me fous dedans, là, complètement. C'est pas, non, ça va pas du tout. Alors, je vois ma présidente à Paris. Je lui dis, mais écoute, voilà le dernier essai que j'ai fait. Ah oui, c'est bien, on aime bien. Et moi, je leur dis, ben, non, ça va pas. J'arrête là. Mais tu peux pas arrêter là. Attends, le planning, le machin, il faut sortir le produit, etc. J'arrête là. Alors là, il y a des figures qui se modifient. Ouais. Mais quand je fais ça, il y a toujours il y a quelque chose qui sort de la poche. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé quelque chose avant. Si je dis j'arrête, ça veut dire que j'ai travaillé.
Vous avez une autre proposition.
Une autre proposition. Et je viens avec une proposition en disant, mais écoute, voilà. J'ai trouvé une autre idée qui me paraît beaucoup plus subtile. Et là, je viens avec un récit. C'est-à-dire quand je suis aquarelliste, quand je vais en Irlande, quand je regarde les landes, s'il y a un piqué, il y a homme. S'il n'y a pas de piqué, la terre est retournée à la terre. Le piqué, c'est mon récit. Je veux dire, donc ça, le parfum sera vertical. Un parfum vertical, vous voyez à peu près la proposition en face. Il est fou. Mais j'ai dit oui, mais il y a des odeurs verticales. Comme il y a des odeurs horizontales. Les odeurs verticales, c'est la vie. Les odeurs horizontales, c'est la mort. Vertical, le cèdre, ça c'est vertical. Donc je vous ai fait une proposition sur un cèdre, ça c'est vertical. Avec des odeurs de terre, il y a les odeurs de terre, de vétiver, de patchouli, vraiment. Voilà, et elles sont là, mais c'est sur la verticalité du cèdre. Et voilà ce que je vous montre.
Une odeur verticale.
Une odeur
je
verticale.
Je pense qu'on s'en rappellera. Jean-Claude, le temps passe merveilleusement d'ailleurs en votre compagnie. Et pour terminer, j'ai toujours des petites questions que j'appelle le crible du gratin, qui sont des questions un peu personnelles, je dois vous dire. Et j'aimerais bien avoir vos réponses. La première, c'est est-ce que vous avez vécu un grand échec?
Oui.
Une grande erreur? Et vous pourriez nous raconter? Et quels sont les enseignements surtout que vous en avez tirés?
Alors, il y a eu un échec. Je vais pas donner le nom du parfum, mais donc j'avais une commande et le client désirait un parfum masculin. Et donc j'ai fait un masculin et puis je lui fais sentir et il me dit non, c'est pas assez puissant, je sens pas ça, etc., etc. Et fais-moi le plus puissant. Je veux plus puissant. Donc je commande la puissance. J'ai toujours un problème avec la puissance parce que j'aime bien les choses soft. Je reviens avec une proposition. Oui, ça me plaît bien, mais non, c'est pas encore assez puissant. Puis il a un bureau qui doit faire, sa pièce de son bureau doit faire 30 mètres carrés dans son bureau. Il me fait, tu vois, là, je suis à mon bureau, toi, t'es à la porte. Quand tu arrives de la porte, tu te parfumes, je veux te sentir dans le bon bureau. Tu veux ça? Je le fais. Je fais. Et quand je le fais, je dis, mon bureau, ça sent vraiment pas bon.
Ça, c'est mon problème.
Ça va pas du tout, ça sent pas bon. Je lui fais sentir, il me fait « j'adore ».
Ah zut.
Je le prends et il lance. Ça a été un flop, mais un flop, un flop. Une année après, le parfum n'est plus sur le marché et moi je savais que c'était mauvais.
Mais vous l'avez fait quand même.
Et j'ai laissé quand même. Alors, deux choses sont passées par la suite. J'ai juré, mais je jurais intérieurement que plus jamais, si je détestais quelque chose, je le laissais. Je préférais refuser que donner un truc comme ça. Ça a été, je peux trouver des tas de raisons, mais il y a aucune raison qui est valable. Et ma jeunesse n'avait rien à voir là-dessus. C'était pas bien. Il fallait surtout pas faire ça. Donc, si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous avez fait, ne l'offrez pas. Et la deuxième chose, c'est que la personne qui m'a demandé ça, le président de la société qui m'a demandé ça, une année après, est venu me voir en me disant, c'est ma faute. J'ai beaucoup apprécié. Et alors, je lui dis non, c'est pas ta faute. On partage la faute. J'aurais dû te dire non. Et tu m'as demandé ça, mais voilà. Et voilà, ça s'est terminé comme ça.
Ça m'amène à une autre question que j'avais pas prévue, mais justement, quand vous êtes face à un client comme ça, j'ai l'impression que vous arrivez à mêler à la fois de l'écoute et quand même de la prise de retour, de feedback. Parce que quand vous nous avez décrit justement les allers-retours, notamment au niveau de First, il y a eu des allers-retours.
Oui, bien sûr.
Et en même temps, il faut savoir aussi dire non quand on n'est pas convaincu par le produit. Le retour pour vous n'a jamais été une difficulté parce que c'est vrai que quand on crée quelque chose, c'est pas toujours facile, je trouve, d'accepter l'amélioration de quelque chose qui est censé être très bien. Comment est-ce que vous voyez les choses de ce point de vue?
Entendre, c'est pas écouter. Je peux entendre, mais j'écoute pas forcément. Ce que je veux dire, c'est que dans l'écoute, il faut faire son choix. Enfin, il faut faire un choix là dans l'écoute. C'est-à-dire, tu me dis ça, mais qu'est-ce qui a sens? Qu'est-ce qui n'a pas sens? Qu'est-ce qui est... Si je t'écoute trop...
Oui, c'est plus votre produit, c'est le sien.
C'est le sien. Oui, c'est toute la limite du et qui c'est le parfumeur? C'est toi ou c'est moi? C'est tout. Et oui, j'ai passé ma vie à me poser des tas de questions sur les odeurs. Tu vas pas me dire ce qu'il faut que je fasse ou pas fasse. Je dis que ça ne te plaise pas, j'en conviens et je l'accepte. Mais si tu me dis ce que je dois faire, non.
Vous avez répondu. Alors, une autre question que j'apprécie, c'est est-ce qu'il y a, vous qui aimez les mots, une maxime, une citation, des mots de sagesse que vous pourriez partager avec nous parce qu'elles vous plaisent, qu'elles vous ont peut-être marqué à un moment de votre vie?
Ah oui, enfin, il y en a plusieurs. Dans les premières choses, c'est quand ma femme m'a vu travailler au début, alors elle avait peur que je manque d'idées. Elle me dit, mais t'as pas peur de manquer d'idées? Et je lui répondais, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et ça, j'aimais bien cette maxime que j'avais inventée, quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est-à-dire que au plus vous donnez d'idées, au plus il y a d'idées. C'est-à-dire qu'il faut... Et puis en plus, ces idées, il faut les partager. C'est-à-dire que essayez des idées, les mélanger, enfin les confondre, mais au plus qu'il y en a, au mieux. Je veux dire, si vous avez une idée que vous la gardez pour vous, mais vous êtes perdu, c'est fini, il n'y a plus rien.
Il y aura une idée.
Il y aura une idée, mais elle n'est pas forcément bonne. Donc c'est les idées alimentent les idées, et donc il faut y aller. Et en plus, vaut mieux les partager, parce que tant que c'est au niveau du partage, je veux dire, je vais vous donner des idées en disant, moi j'ai cette idée là de parfum, j'ai cette idée là, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la réalisation de l'idée. C'est-à-dire la manière dont je vais réaliser l'idée. Tout à l'heure, on parlait du citron, mais attendez, c'est votre manière d'écrire le citron qui fera la différence, et non pas l'idée du citron. Donc, l'idée, c'est juste l'input, enfin, juste là. Voilà, la clé. Et puis, mais qu'est-ce que je trouve derrière la porte? Donc, c'est, voilà, quand il y en a plus, il y en a encore. Et être généreux dans ce, je reviens toujours à cette notion de générosité. L'autre chose, c'est, oui, c'est la notion de n'ayez pas peur, essayez. Oui, parce que, je suppose qu'un cuisinier comme un parfumeur, à un moment donné, il faut tout essayer. Et ensuite, on sent, on goûte. Et puis, non, ça n'a pas marché. Tant pis. Mais, j'ai essayé, au moins j'ai essayé, je sais. Autre chose, ah oui, la dernière chose peut-être que je pourrais dire, qui est assez nouvelle, vraiment, vraiment nouvelle, c'est que pendant très longtemps, j'avais une secrétaire, une assistante pour faire mes essais. Aujourd'hui, c'est moi-même qui fais mes essais, qui pèse mes formules. Le bonheur, c'est de peser ses formules. Alors, tous les parfumeurs aujourd'hui qui ont des assistantes, je dis aux parfumeurs, à vos assistantes, donnez-leur le travail administratif, sous le travail de secrétariat, tout travail qui est absolument pas créatif du tout, qui n'apporte rien.
Mais qui est nécessaire.
Donc, il est nécessaire. Ayez une assistante pour ça. Et vous, mettez-vous devant la balance à peser. Parce que depuis que je pèse, que je me suis remis à peser, c'est pas pour des questions économiques, non. C'est un plaisir physique, sensuel, charnel, avec la matière. Et d'un seul coup, je vois d'autres choses. Je ressens d'une autre manière. Et en plus, mes formules se raccourcissent encore plus. Donc, c'est un travail vraiment de feignant qui fait que, eh oui, là, c'est bien. Et puis, je vois tout de suite ça va marcher. Je sais même à l'avance ce qui va marcher ou ne va pas marcher. Alors que, avant, quand j'avais eu des assistantes, je faisais 2-3 essais avant de savoir. Maintenant, je le sais du premier coup. Je gagne du temps en plus.
Ça, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Encore une question. Alors, elle n'est pas facile, je vous préviens.
Très bien.
Est-ce qu'il y a une croyance que vous avez, quelque chose en quoi vous croyez, quoi, qui est plutôt controversée? Je vous donne quelques exemples. Le travail rend malheureux. Certaines personnes pensent ça. Moi, personnellement, je suis assez convaincue que le travail rend très heureux. Mais voilà. Donc, une croyance que vous avez, vous sentez que globalement, elle n'est pas universellement partagée, que vous êtes plutôt en désaccord avec plutôt la majorité des gens. Ah, c'est pas une question facile.
je m'étais pas posé cette question-là. C'est une question que je me suis pas posée. C'est où je suis en désaccord.
Vous l'avez remarqué.
Oui, je suis contre le secret. Alors, parfumerie se veut secrète. Moi, je suis contre le secret. Et je suis prêt à montrer mes formules. Et le problème, c'est de savoir lire. Et tout le monde ne sait pas lire.
Ah oui. Comme vous dites, la réalisation derrière, c'est pas juste la formule.
Non, c'est pas juste la formule. Donc, alors que la plupart du temps, on pense qu'il y a des secrets nécessaires. Et je veux bien montrer comment je joue du piano, mais si vous savez pas jouer du piano, vous saurez pas jouer. C'est pas possible. Il y a quand même, mais je joue pas du piano. Hein. Ne croyez pas ça. Mais ce que j'essayais de dire, c'est que c'est pas parce que je montre ce que je fais que vous allez pouvoir le refaire. C'est pas possible. Donc, non, le secret n'est pas nécessaire.
Encore deux questions. S'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment?
Je ferais tout pareil. Je ne change rien.
Ça me va. Et enfin, la dernière. Est-ce qu'il y a un ou des livres qui vous ont particulièrement marqué dans votre vie? Ça peut être à tout moment. Pourquoi? Et quels étaient-ils?
Alors, il y a eu pas mal de livres. Un des livres, j'étais tout jeune, c'était La Nouvelle Grille d'Henri Laborite. Alors, c'est dans les années 70, ça. Donc, Henri Laborite, un biologiste, avant chirurgien, qui devient biologiste, il écrit un livre qui s'appelle La Nouvelle Grille, qui est une manière de comprendre différemment les humains et les rapports humains. Et ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé parce que d'un seul coup, il faisait éclater la hiérarchie. Ah, faire éclater la hiérarchie, ça me plaisait. C'est-à-dire qu'il disait, c'était fabuleux ce qu'il racontait, il disait, mais dans un corps vivant, dans un corps humain, toutes tes cellules reçoivent toutes tes informations. Tout votre corps, le bout du doigt, reçoit toutes tes informations. Les mêmes informations qui sont au niveau du cerveau, au niveau du pied, etc. Tout le monde reçoit les mêmes informations. Mais chacun est spécialisé, chacun tient son disque, tient ce qu'il fait. Mais il n'y avait plus de hiérarchie. C'est-à-dire chacun fait ce qu'il a à faire. Et ça nous a amené, ça m'a amené avec deux copains de inventer ce qu'on appelait l'équipe de parfumerie. C'est-à-dire qu'on a fait, j'étais un des premiers, on a été les premiers à faire ça, une structure de parfumeurs avec un bureau, un open space, où les parfumeurs travaillaient ensemble, où les formules étaient visibles par tout le monde. Et j'avais poussé, parce que j'étais très théoricien à l'époque, j'avais poussé le raisonnement, c'est que les bureaux étaient des tables en verre.
Ah ouais.
Vous voyez la symbolique.
Oui, la mise en abîme.
La transparence totale. Ah oui, mais ça a marché, mais ça a beaucoup dérangé. Parce que...
Oui, mais non. Bah, ça fait peur.
Ça fait peur. Oui, ça fait peur. Donc Henri Laborite a été... m'a influencé énormément. Ensuite, dans les lectures que j'ai faites, c'est... Je suis un amoureux inconditionnel de Jean Giono. Donc, je découvre Jean Giono vers l'âge de 30 ans, en découvrant Jean Giono, et j'apprends qu'il faisait des réunions derrière Manos, dans le Contadour. Et c'est à partir de ce qu'il y a là qu'il écrit, enfin, de ce paysage-là qu'il écrit. Et je dis à ma femme, écoute, je vais aller voir. Donc, nous voilà partis en voiture jusqu'au Contadour. Et quand j'arrive, déception. Mais alors, énorme déception. Le lieu est aride, quelques arbres secs, un peu de thym, des cailloux partout. Mais ce qu'il décrit, Regain, Colline, etc., ça se passe là. Mais il n'y a rien de tout ça. Et je lis chez Giono, je me rajoute à la nature.
Oui. C'est bien dit, évidemment.
Ah, quelle leçon de création! Je me rajoute à la nature. Ça va, j'ai compris. Dorénavant, je vais me rajouter.
Écoutez, c'est, je pense, les meilleurs mots de la fin possible. Je vous remercie mille fois pour votre temps, pour tout ce que vous avez pu partager avec nous. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier mot que vous vouliez dire, que j'aurais raté?
Non.
Très bien. Alors, dans ce cas, si jamais
on a pour 2 heures, là.
Bah oui, c'est vrai que c'est un peu long, mais mes petits systèmes. Est-ce que vous pourriez nous dire, ceci dit, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous contacter? Où est ce lieu magnifique? Si jamais, je ne sais pas, des auditeurs du podcast veulent en savoir plus sur vous, découvrir vos nouvelles œuvres.
Lecture,
très bien.
Des livres que j'ai écrits, voilà.
Parfait, on pas écoute plus. Ce podcast et on se contente de ça.
Voilà.
Vous restez difficile à trouver.
Ah oui, puis je suis bien comme ça. Non, j'ai des demandes. Tous les jours, je reçois des demandes pour faire des parfums. J'en refuse 99.
Et bon, on va rester comme ça alors. On vous laisse dans votre merveilleuse tranquillité.
Oui, parce que alors c'est bien qu'on me demande. J'apprécie cette demande, etc. Et puis d'un autre côté, c'est Non, je veux travailler 3-4 parfums par an et pas plus, parce que d'abord, je vais donner beaucoup à ces 3-4 parfums. Et si j'en ai 200, mais non, ça ne va pas du tout. Moi, j'ai besoin de temps pour créer. Et non, voilà.
Non.
C'est non. Je suis pas partageable. Je suis pas sécable.
Vous n'êtes pas sécable, mais généreux quand même. Merci beaucoup Jean-Claude pour cette leçon.
Merci Pauline.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du-6-gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc, sous le pseudo Pauline Léniaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes, en fait, permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah, c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.